Mais en tout cas, donc du coup, il propose aux autres d'enchaîner immédiatement sur racontage d'histoire, une pratique locale interculturelle. Et nous accueillons le premier invité pour parler de ça, c'est Sully Govindin et Lydia Mananou, côté Baltamoul, histoire, performance et dynamique de créolisation. Sully Govindin.
C'est compris. Alors donc dans le Baltamoul, alors l'image que j'envisageais donc de montrer, c'était le dieu de l'intelligence qu'on appelle Vinayagal, avec ses deux acolytes, deux Brahmas, deux Gurukuls qui ont le savoir et qui, bien sûr, constituent donc un préalable à la prestation du Baltamoul. Et après, donc, bien sûr, je passe. C'est effectivement la danse, les danseurs de Baltamoul, de la troupe de l'Est, ça date déjà de quelques années, bien sûr, qui miment ici le rôle des maîtres du savoir, en accompagnant le dieu de l'intelligence, Ganesha, ou encore Vinayagal, sur la scène théâtrale du ballet indien. Alors, le spectacle a eu lieu il y a quelques années déjà, dans le quartier désignant la périphérie des villes, dans l'Est. La troupe, à l'époque, c'était Rick Mooney, d'une famille de l'Est, assurait le spectacle, encore désigné le Bal Malba, Baltamoul, Naregon, ce sont des synonymes. Exemple, donc, ici, cette introduction autorise les acteurs à développer leur répertoire en continuant, par exemple, sur une pièce liée ici au Ramayana, avec l'intitulé Kosrevin Ramayana, ou encore Kusarava Ramayana, en mettant en exergue les enfants de Sita et Rama. Le Vartial, réputé, c'est donc le maître de ballet. À l'époque, c'était Alexis qui assurait le spectacle théâtral dans les années 90 à Saint-André. Mais ces phénomènes sont toujours d'actualité. Moi, je me suis appuyé sur donc une prestation qui date, effectivement. Alors, notre communication sur le Baltamoul, où le bal des engagés s'organise en quatre parties, mais je vais regrouper ça en deux parties vu le temps qui est donné. Alors, une partie historique sur la pratique donc de la tradition orale et théâtrale des engagés, des descendants d'engagés, et ensuite je dirais une dynamique de la créolisation. Qui montre ici l'innovation engagée depuis quelque temps concernant cette prestation de Baltamoul. Alors, sur ma partie historique, alors une approche historique sur les pratiques théâtrales et ancestrales des engagés indiens au XIXe siècle sur un navire à coulis et au lazaret. Alors, je vais aborder la situation donc d'une prestation théâtrale, notamment sur un navire qu'on appelle le Sugère. Alors, à l'époque, une des stratégies mises en place par les engagés était donc de pouvoir survivre dans l'entrepôt des navires. Et l'entrepôt permettait à ces gens donc de supporter les épreuves. Alors, je m'appuie sur justement un exemple, à savoir le Sugère. Alors, Doresa Miniana Adichirm et bien sûr le médecin stagiaire qui est embarqué en qualité de médecin à bord du Sugère où il n'eut à déplorer aucun décès parmi les engagés, décrit dans son rapport sur le voyage de Pondichéry à La Réunion en 1865. L'emploi donc du temps de la journée des émigrants en insistant sur la pratique artistique. Voilà ce qui est écrit. Pendant la majeure partie du jour, nous les autorisions, les engagés, bien sûr, Kikitane qui viennent à La Réunion, à chanter et à danser. Nous excitions leur émulation par des distributions raisonnables d'eau, de vie, pour les engager à jouer les soirs des comédies, excellent moyen de distraction. Alors, les moments donc de prestation pour pouvoir donc s'occuper les engagés avaient lieu aussi dans les dépôts. Par exemple, Auguste Vincent, qui est un médecin du Lazaret à La Réunion, il eut aussi l'occasion d'assister à un spectacle et en fit une description dans le bulletin de la Société des sciences et des arts en 1883. Le médecin caractérise la prestation théâtrale telle une comédie-ballet. Je cite « Une bonne comédie en 5 actes, en grande partie mimée avec chœur, danseur, chant et dialogue. Tous les gens s'y trouvaient. Et en dépit des scènes burlesques, l'auteur précise cependant qu'au dernier acte, nous sommes transportés dans une pagode de l'Inde où les divinités sur un trône est assise et voilée. Des chants religieux se font entendre. On lui adresse des hymnes, des motets. C'est une forme musicale, à savoir donc une composition musicale qui date du siècle passé. Ensuite, la scène est vraiment majestueuse. Les prêtres indiens exercent deux métiers dans leur sacerdoce. Ils récitent des prières et vendent des amulettes. Voilà, ça c'est donc un exemple de ce qui se passait par rapport au bal tamoul, à savoir donc c'est une pratique qui était indispensable et salutaire pour les engagés qui venaient dans la cale, mais l'entrepôt des bateaux pendant deux mois de la métropole de la France vers La Réunion. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est davantage la partie donc théâtrale à La Réunion, à savoir ici l'interprète et le mythe ou la geste de Rama. Alors, un exemple de scénette, ce qui se passait donc, qui se passe à La Réunion maintenant, à savoir donc Le Vanan et la Lavandière dans le Kosrivlin Ramayana. C'est donc un répertoire qui a eu lieu à La Réunion, qui est véhiculé actuellement encore par les associations, notamment à Saint-Louis, et je m'appuie bien sûr sur un exemple, à savoir donc celui de M. Valerma, qui est Vartial. Alors, les mythes hindous, présents depuis le début du peuplement à La Réunion, ont été transmis oralement sur plusieurs périodes liées à la domesticité, espace-temps qui est avant l'esclavage, durant l'esclavage et à l'engagisme indien. Avec les processus de la créolisation linguistique et culturelle, les récits tamouls ont ressurgi dans la tradition orale créole. Ainsi, dans les chants du Maloya, des artistes renommés tels que Lélé, avec le titre Ayo Adunin, Kondjom Nyerpu, Anin, pour le Mahabharata, et Fiamaviri avec Dodo Siya pour le Ramayana, ont perpétué des chants épiques. Le titre même du Maloya de Viri est l'expression métaphorique de la demande sexuelle du démon Ravana adressé à Sita, qui ne cesse de répliquer la case la pas moins, Midodopa, exprimant ainsi son exil, sa chasteté et sa fidélité à l'égard de son époux Rama. Avec l'engagisme, une tradition orale primaire puis seconde, car recomposée avec la présence des livrées de Nargon, qui ont transité entre l'Aisne et les îles par le biais d'anciens engagés opportunistes, s'est ainsi maintenue jusqu'à nos jours. À ce propos, l'ouvrage de Valerma, qui est donc un maître de ballet à Saint-Louis, il a écrit donc un ouvrage justement intéressant qui répertorie donc les différents fragments de bal tamoul. Voilà, je voulais terminer maintenant. Je voulais montrer l'importance de la créolisation à travers donc cette image qui est projetée. Et est-ce qu'on peut entendre au moins
Vanan, couchez-la, couchez-la, madame.
Alors,
pourquoi t'as pour femme comme ça, maintenant?
Ah ouais, il peut te manger. Il amuse pas. Il amuse lui. À terre, m'la gagne la fête. Lui, il peut bien.
Voilà, je vous ai montré donc cette séquence pour montrer l'importance grandissante de la langue créole qui est incontournable maintenant dans les prestations de Baltamoul. On voit ici des personnages, bien sûr, qui, notamment, des personnages notamment donc le Vartial, le maître de ballet, qui quitte son piédestal et qui vient sur la scène dialoguer en créole avec les personnages. Et ça, c'est une innovation. Et ça montre donc l'importance grandissante donc, de la langue créole dans les prestations. Alors, dans le récit de Valerma, les enfants de l'Ermitage verront cette... Alors, si je conclue là, par rapport...
C'est vrai, là, on est vraiment hors temps.
Ben, je termine donc sur les enjeux de la créolisation par rapport donc au Baltamoul. Alors, la pratique du Baltamoul connaît des mutations structurelles et les dynamiques observées relèvent des processus de la créolisation. Ainsi, plusieurs exemples nous autorisent à soutenir cette hypothèse. Nous observons une réduction, voire une minoration des épopées traditionnelles au profit des scénettes populaires qui s'insèrent dans les grandes traditions littéraires. Le traitement des scénettes adopte des sujets autres que religieux et davantage populaires, profanes et laïques. Les préoccupations du peuple sont mises en exergue et s'insèrent dans le récit théâtral. L'occasion est ainsi saisie pour dénoncer les contradictions des nantis, voire de la royauté. Aussi, la tradition orale et théâtrale inspire la création dans les langues populaires et intègre les croyances villageoises, islamiques et chrétiennes. La laïcité est aussi bien présentée avec la création théâtrale qui souligne les traits humains et leurs travers. Enfin, la dernière innovation dans la tradition du Baltamoul reste la présence non plus d'hommes maquillés en femmes, mais bien d'actrices féminines dans les spectacles. Les thèmes traités auparavant dans la langue tamoule, dont le chant lexical contient une vingtaine de termes usités dans les performances, sont transposés en langage véhiculaire créole, permettant ici une meilleure compréhension avec le public créolophone. Aussi, les formats sont aménagés car le spectacle se conforme aux nouveaux critères dans la durée, soit 1h30 à 3h. Le metteur en scène ou le Vartial n'hésite plus à s'immiscer dans la pièce sur la scène et à dialoguer avec les acteurs en langue créole. Et il peut interpeller même le public. Nous renouvelons notre confiance au metteur en scène et au Vartial, convaincus de la nécessité de faire évoluer cet art ancestral pour qu'il perdure dans notre sol réunionnais. Merci.
Merci beaucoup, Sully Govinda. Sujet passionnant qui suppose un certain temps de développement, mais on est un petit peu contraint par le temps. Je vais inviter pendant ce temps-là, et j'aurais dû le faire avant, Omar Issop Bagnan à nous rejoindre. Et allez, je vais déformer un petit peu son titre, puisque il disait « Les djinns, génie, une histoire géniale », et moi j'ai envie de dire « Les djinns, génie, une histoire géniale ».
Si, j'ai la fin, en tout cas pas moi l'auteur. Donc s'il y a une heure de retard, allez voir Roger avec son équipe. En tout cas après ça, si vous êtes sympa, visite les mosquées, sans inquiétude, mais on sera bien content, parce que ça raconte à Zod deux, trois histoires sur les génies, sur les djinns. Mais d'abord, Dominique l'a fait une présente à moi. Et tous les ans, maintenant, Roger n'a l'habitude d'appeler à moi. Et comme elle n'est pas un grand spécialiste, bonnes herbes, bonnes simples. D'ailleurs, c'est un mot bizarre, simple, hein. On a trouvé ça bizarre les dernières. Les herbages, tout ça, y compris sur les légendes.
C'est un peu compliqué, c'est ça?
Mais ça, voilà, c'est un peu compliqué comme mot, mais trouve comme mot simple. Mais bien content, répond Roger et son équipe. Parce que moi, il permet à moi aussi de renouer un peu cette intraculturalité ou interculturalité, parce que nous toutes, nous l'aînés ici à La Réunion, et nous y aiment connaître à nous, entre nous. Mais moi, comme dans toutes les familles réunionnaises, alors, j'aime bien cause créole et français en même temps, donc si tu ne comprends pas créole, dans les actes, là, on aura la traduction en français. Donc, moi, malaîné dans toutes les familles réunionnaises, malaîné à Saint-Paul, dans une famille saint-pauloise, mon papa était menuisier, 12 enfants, enfin, il avait 13 un premier lit. Et m'a été bercé durant mon enfance, jusqu'à l'adolescence, mais un peu plus vieux aussi, par des histoires longtemps que l'a creusé le sillon de mes rêves. Franchement, ça ne me gagne pas dit en créole. Hein. Et que la donne à moi les frissons de la transgression, de l'interdit, ou plutôt de la curiosité, parce que nous tous, ça, quand nous les marmailles, pour voir comment elle est vraiment l'autre côté, la frontière entre ce que nous imaginons, le kermazinaz, et puis ben, la réalité de la vie. Et ce n'est pas bon de raconter les histoires, tu manques la case. Avec 12 frères et sœurs, papa, maman, l'instituteur à l'école laïque, c'est comme ça que tu appelles ça longtemps, comme elle parle, bon, on peut laïcité, hein, mais nous, on a parti l'école laïque, nous, on était qu'on école était. Et à la Médéassa, pour l'école coranique, le choix était riche, sans compter le bon imam, tout ça, à la Médéassa. Donc, et les lieux de rêverie, il a été nombreux dans mon enfance saint-pauloise, mais ça raconte à Zod mon enfance saint-pauloise, parce que Saint-Paul, c'est le berceau de la Réunion. C'est les saint-paulois ici, lève la main, va. Bravo. Assis sous les flamboyants des cours d'école, tout le monde connaît l'école laïque là-bas, au centre-ville de Saint-Paul, dans mon gros pied flamboyant, comme ça a fait bazar Saint-Paul, hein, le samedi matin. Ou les manguiers des cours créoles, ou encore ceux de la mosquée, dans mon bon peu pied mangue de la cour de la mosquée Saint-Paul. D'être juste en face de la case. Ou alors, mon petite ville de gamin de Saint-Paul était au bord de l'étang Saint-Paul, ou bien le soir, sur bord de mer, sous les filaos ou les araignées, ou à la librairie de Le Comte de Lille, de mon frère Idriss, il avait ouvert une librairie à l'époque, qui s'appelle Le Comte de Lille, comme par hasard, Saint-Paul, ou encore au cœur du Bernica, ou à la Fontaine des Prêtres, comme là, on a la route des Tamarins, donc Fontaine des Prêtres fait un peu pitié, parce que la route, il domine à l'île, mais ça l'est né à Saint-Paul, il connaît, c'est sa pêche crevette, à la Fontaine des Prêtres, hein, madame, il voit où acquiesce du chef. Merci bien. Il ne m'a pas choisi à l'exprès. Hein. Donc, le Bernica aussi était mon lieu d'enfance, là où les bruits n'y montent pas de la mer sur les côtes, ni la rumeur des hommes, on n'y peut oublier. Le monde a reconnu ça? Le comte de Lille. Tous ces lieux de rêverie Saint-Paulois, ils pensent que les pas par hasard, bon pirate, la rive Saint-Paul en premier. Bon, on a Saint-Philippe aussi, le puits des Arabes, tout ça, mais là, pour parler un peu moins commune. Donc, les légendes des personnages et objets issus des contes, comme Tijan ou Tizan, comme ça tu veux, hein. Madame des Bassins, Grand-mère Cal, Citarane aussi, ce matin, m'a pas entendu Citarane, mais tout le monde y connaît où ça y est enterré. Cuisinier les morts, ça c'est mon moment, ça t'a fait raconter à nous l'histoire, Cuisinier les morts, Gramoun le sable, Sat Marron, tout le monde a chanté ça pour les enfants pour gagner sommeil, ou encore l'autorouge. Voir l'autorouge, là, 8 heures du soir, tu ne mets plus le pied dans la rue, tu restes la case. Tout ça la façonne mon imaginaire d'enfant et beaucoup l'a exercé un gros impression sur mon jeune esprit. À l'époque, j'étais en quête de repères, tout ça, de la vie, dans ce petit monde qui allait de l'étang Saint-Paul au quai Gilbert. Ces oralités, là, aujourd'hui disparues parce que on a plus de rationalité. Maintenant, nous vivons dans un monde rationnel avec Internet et à France, tout ça, il arrive chez nous, il y a Manhattan, Mounir, ça va, tout ça. Donc, tout ça, ce monde extérieur-là, il vient. Maintenant, nous oublie ça, nous abandonne un peu, même y compris ces superstitions-là. Et pourquoi pas, d'ailleurs, parce que les superstitions aussi, il y en a un bon côté, il y en a aussi le mauvais côté. Mais il pense que grâce au travail que Roger, il fait avec son équipe, il permet à nous de reciter tout ça et de resituer notre enfance. Parce que ces contes-là, la bercent à nous et la façonnent notre personnalité jusqu'à à peu près 16, 17, 18 ans. Et grâce à ce travail que le CCE y fait, ce travail de réveil en commun que nous mettons ensemble, pour façonner la société réunionnaise. Alors, des contes pays, il y en a bon peu dans notre île culturelle et religieuse à la fois, parce que là, tu connais, hein, culture, religion, le deux, avec un, l'un va pas sans l'autre, mais ça dépend aussi comment on prend l'île et l'angle d'approche. Mais ça raconte à Zot maintenant, et non pas conter, mais raconter deux histoires qui m'ont marqué enfant jusqu'au début de mon adolescence. Tout d'abord, celle des djinns. Est-ce que tout le monde y connaît, c'est quoi les djinns? Oui, il pense, hein. En arabe littéraire, et leur influence réelle ou supposée sur notre éducation religieuse ou sociale. Et une autre histoire que n'a trait à nos carrefours routiers et à nos routes. Ça, tu connais ça, tout le monde y connaît. Marche pas dans tel carrefour, on a telles affaires, etc. On a plein de choses là-dessus. Et ça l'a bercé mon environnement Saint-Paulois, du bâton des lames au sommet des montagnes, pour paraphraser un autre grand poète réunionnais, il n'est pas là ce matin. Lorsque les Gramoun te relatent à nous toutes ces bonnes créatures nocturnes sans jambes que tu attends les bonnes automobilistes, hein, le passage, la nuit, soit pour trappe azote, pour souk azote, ou alors pour faire peur azote. Alors d'abord sur les djinns, non pas les djinns délavés ou achats de magasin. Hein. Est-ce que c'est une histoire géniale ou pas? Moi, je considère qu'elle est géniale. Après, ça dépend comment on prend les. D'abord, al-djinna en arabe, transcrit en français djinn, je ne peux pas signer, elle a écrit, non, ben, pas écrit, tant pis, ce sera dans les colloques, dans les actes. Parfois, il traduit aussi par démons, sont des créatures surnaturelles et subtiles, faites de feu sans fumée, souvent associées à la possession maladive, dont la présence furtive, pouvant être ressentie par les personnes et généralement hostile à l'homme. Alors, la source, c'est la mythologie arabe pré-islamique, donc ce n'est pas lié à l'islam, c'est vraiment une source arabe pré-islamique, reprise dans la tradition musulmane de l'Inde en Arabie, en passant par tous les pays. Les contes sur ces êtres invisibles foisonnent dans la littérature et le folklore arabe et indo-musulman gujarati. Ici, ça s'appelle Bandes arabes, d'ailleurs, il y en a une exposition à l'université, là, si tu veux aller voir, Bandes arabes, en fait, nous sommes des gujarati. Un chapitre du Coran leur est même consacré. L'homme y est mis en garde, d'ailleurs, sur les intentions mauvaises liées à leur éventuelle possession pour en tirer profit. Nos raconteurs, camarades de classe, professeurs, parents, voisins, instillaient allègrement et savamment ces djinns dans nos oreilles, suffisamment pour impressionner à nous, mais aussi comme une sorte d'aiguillon d'éducation à l'hygiène corporelle et religieuse et à l'interdiction de sortir à la nuit pour aller vanguer partout. En effet, on dit qu'elles ont la faculté de colbon marmaille en les apiémang s'ils ne font pas leur toilette, et cela nous terrorisait tout en réveillant notre curieuse excitation pour aller voir souvent le soir tard avant la prière de Isha, c'est-à-dire la nuit, la réalité des choses dans le fond, la cour, la mosquée ou dans les bois environnants. Une autre faculté prêtée aux djinns, c'est l'empreinte d'apparence animale, de plantes, voire de personnes. Et une histoire, là, ça va, Scott Chazot, m'avait particulièrement marqué quand j'étais petit, mais avec 14-15 ans. Feu mon père, qui, selon l'imam de la mosquée de Saint-Paul, un beau jour des années 1980, lui avait rendu visite vers 3 heures du matin. Il y a l'imam, il voit mon père arrive devant lui à 3 heures du matin. Le lendemain, vers 9 heures du matin, comme ça, ils boivent le thé indien ensemble, le chai, là. Tout le monde connaît ça, ça, avec Malbar, les bons, le chai, avec Samoussa. Le lendemain, ben, ils boivent chai ensemble, comme ça, à la mosquée. Et puis l'imam dit, hein, Youssouf, il sort, papa n'y voit, au moins 3 heures du matin, papa, il dit, comment ça? Mais t'es pas là, mais t'es dehors. Et mon père était dormi d'un profond sommeil, lequel imam ne fut pas du tout étonné, puisque lui-même avait des relations, on va dire, amicales avec certains de ses djinns. Donc, deuxième histoire rapidement, parce qu'on a beaucoup conteur là, mais on a un conteur là, il compte. Alors, nos carrefours et routes, de simples infrastructures ou des lieux chargés d'histoire? Après ça, là, quand tu te sens la route, mon gaillard, regarde bien quel carrefour de traverse, mon moyen. Qui n'a pas entendu parler des histoires en lien avec les carrefours routiers réunionnais? Un peu d'urbanisme aussi, Roger. Lieu de tous les fantasmes, de tous les services aussi, où des êtres étranges, plus ou moins corporellement constitués, feraient des apparitions. Tout le monde ou presque a entendu parler de ça. Le nôtre était le carrefour réputé de Savannah, derrière l'usine là-bas, t'es fait Sirocane. Et ailleurs, la route des plages. Maintenant, ils appellent ça la route bonne touriste, hein, la route des plages. Allant de la caverne des premiers Français, ou du peuplement, c'est selon le maire de Saint-Paul, jusqu'à Boucan-Canot. Là aussi, on disait que de nombreuses disparitions d'automobilistes eurent lieu, assez téméraire d'ailleurs pour s'arrêter pour prendre une femme autostoppeuse. T'es franchement, faut avoir le courage. Hein. Seul en pleine nuit, mais qui n'avait pas de jambes. Moi, franchement, moi, une femme n'a pas de jambes, la nuit, il n'y arrête pas. La caverne de Saint-Paul et sa plage juste en face. Tout le monde connaît la caverne Saint-Paul. À côté de l'eau de coco, ils vendent, mais paraît les mélanger avec de l'eau. Au lieu de tous les fantasmes des trésors de la buse, lesquels, en rencontre avec notre bibique nationale, nous faisaient rêver à l'or philosophal. Dans mon famille, 13 enfants, papa menuisier, il fallait nourrir 17 bouches. Donc, nous, on avait locucité. Donc, cet or philosophal de bibique, mais mieux peut dire ça. Nous, on était ça chercher, nous. Telle Alain, on a fait un petit mot pour faire rire à nous sur la buse, tout ça, dit notre trésor, c'est ailleurs. Mais nous, maman, nous, t'es croix, trésor, la buse. Et maman, il s'est pas loin, nous, t'es ça va sur la plage, au sable noir, fouille le sable pour voir vraiment si la buse en est là, pour planter son trésor. Donc, tout ça, c'est les contes que la berce à nous. Alors, est-ce que c'était des fantômes ou pas, ou des simples imaginations du folklore créole, ou tout simplement un désir de monter d'adrénaline ou de fantasme du samedi soir chez les plus zen? C'est notre Saturday Night Fever à nous, créoles. Ce qu'il y a de vrai, en tout cas, ce sont ces histoires sur les cadres, ces automobilistes qui ont fini par donner des contes en créole, qui berçaient nos nuits et nous renvoyaient à des imaginaires lointains, excitants, et terrifiant à la fois. Voilà, le temps, il presse. On aurait aimé raconter ça aussi de Narlégon, quand Ben Malba engagé à débarquer à Réunion, le lien que Néda entre la communauté musulmane et hindoue, que les très forts, que Néda aussi, que Néda des rites là-dessus de religion, mais plus tard, peut-être, s'il y a le temps, parce que ça vaut le coup, parce que par ailleurs, elle est vice-président du Conseil réunionnais d'interculturalité, mais aussi vice-président du groupe de dialogue interreligieux. Voilà, mais j'espère m'a fait rire à ça, c'est mon moment d'histoire.
De toute façon, tu as toujours la possibilité de revenir l'année prochaine. On va juste régler la thématique, il n'y a pas de souci.
Ben maintenant, finissons la fin de la tograppe. Hein, sur moi, ben marronnier de plaisir.
Pendant que Abbas Mulla s'installe, je ne doute absolument pas, connaissant la confession de ton imam, je ne doute absolument pas, mais il aurait été d'une autre confession, je t'aurais dit, au bout de combien de djinns. Mais bon.
Bonjour à toutes. Alors, moi, je m'appelle Abbas Mulla, de métier bibliothécaire. Après, à travers mon métier, on m'a pris passion pour le conte et pour l'écriture aussi. Et donc, moi, ce que m'en a envie, c'est témoigner à Zot. C'est vraiment un témoignage de ce que m'en a entendu dans mon enfance. C'est quoi les contes que m'en a entendu. Et voilà, je voulais déjà préciser que les Arabes de quatrième génération. Donc, nana, des bribes qui restent à nous, des histoires que nous l'ont entendues. Déjà, c'est que mes parents t'ont raconté à nous, c'est que vous autres l'ont entendu, bout par bout. Donc, on a déjà une période qui a été faite et puis une forme de créolisation. Deuxième chose qu'il voulait préciser, nous, les d'origine indienne, et non pas indo-pakistanaise, donc nous n'avons pas de lien avec le Pakistan, mais insiste là-dessus, et encore moins arabes associés à l'Arabie saoudite. N'a aucun lien, n'a pas une sang arabe, pas à ma connaissance en tout cas. Mes ancêtres sont de Surat, et Surat c'est une ville portuaire donc, de l'Inde, et elle est réputée pour être l'ancien carrefour culturel et économique de la côte ouest de l'Inde. Sous l'Empire moghol, c'était une ville extrêmement riche et stratégique pour l'empereur, surtout Akbar, qui aimait énormément la ville de Surat. Il y a beaucoup de légendes autour, donc il passe à zoter les détails là-dessus. Dans quelle langue m'y t'entends les histoires? Eh bien, mes parents, ma grand-mère, surtout qu'elle raconte à moi des histoires, elle parle en créole. Mais ce créole était matiné de langue orientale. Mais dit bien orientale parce que dans ces langues-là, nous ne rendons pas nous compte. Nous avons beaucoup de mal à dire ce que nous l'est en tant qu'arabes, c'est-à-dire que nous-mêmes, nos bonnes ancêtres, ils sortent d'un pays où il y avait des langues mélangées. Donc, ma grand-mère, par exemple, était maître des mots Gujarati. Le Gujarati, c'est cette langue que nous entendons, par exemple, Mankaran de Madagascar parler dans les stations d'essence ou dans les magasins. Quand ils parlent en Gujarati. C'est pas de l'arabe. La deuxième langue qui était très présente au sein de ma famille et aussi que nous entendons à la mosquée, c'est la langue ourdou. La langue ourdou, c'est la langue que nous pouvons entendre, qui est très proche de la langue des films du Bollywood et des chansons indiennes. Et la troisième langue que nous entendons, c'était l'arabe classique, pas l'arabe maghrébin. Donc moi, quand un arabe maghrébin, il parle, il ne comprend pas un mot de ce qu'il dit. Par contre, s'il entend une chanson du Liban, il est capable de répéter les phrases, quelques mots, et saisir le sens. Donc, la trois langues orientales plus le créole. Et ma grand-mère était d'origine mauricienne, donc elle était mettre aussi des mots créoles mauriciens dedans. Et sans compter que le français l'arrivait aussi au sein des familles, donc nous tentons cinq langues au total. Voilà ce que je voulais préciser. Donc, dans les langues, dans les contes créoles que l'on a entendus, l'avait bien sûr grand-mère Cal incontournable, nous l'a entendu Madame des Bassins. Mais après, un moment, elle a souvent fait à moi allusion, et comme il était petit, il avait raconté à moi les histoires de Zocris. Et ça ne m'a pas trop entendu de la part de mon camarade conteur. S'il y a quelqu'un, il peut retrouver des bribes là-dessus. Et si maman l'avait dit ça, elle m'était dit, ouais, mais où ça, ma tante, maman l'avait entendu, mon histoire, mais il pense qu'effectivement, ce qui a été dit tout à l'heure, ça venait des nénènes. Les nénènes qui étaient restées avec mon maman, et quand ils ravagent un bopé, étaient assises avec Zot, dans un petit goûter, et ils te racontent d'autres histoires. Donc, elle avait des histoires de Zocris. Et ma tante l'avait raconté à moi aussi récemment des bribes des histoires Tifi noir, Tifi blanc, qui parlent à la fois de racisme et qui parlent aussi de générosité, de méchanceté et tout. Ça, c'est pour les contes créoles. Les contes français, m'étale pas moi là-dessus. Mes parents, enfin, surtout mes oncles et tantes, l'a appris ça à l'école, ben, n'a pas de jusqu'à niveau CM2. Après, mon bon grand-sœur était lire mon livre de contes dans la bibliothèque, était raconté à moi, et puis moi-même, elle a lire des contes français plus tard. Là où ça devient peut-être beaucoup plus intéressant sur l'apport culturel, c'est les contes indiens que l'on a entendus. Et c'est en tant que bibliothécaire et adulte, qu'en analysant les histoires que l'on a entendues, que l'on a rendu moins compte qu'en fait, nous avions à la fois des contes hindous et les contes, on va dire, musulmans ou indo-musulmans. Et dans les contes hindous, ce qui reste à moi intégralement, c'est les histoires, par exemple, les histoires tibèves. Malheureusement, on ne pourra pas raconter à vous l'histoire, mais la conclusion de cette histoire, c'est Mahama, il ne mange pas la viande bœuf. Donc, les flagrants, c'est un conte malbar, un conte hindou. Et la deuxième histoire que m'a réussi à reconstituer intégralement de la part d'une tante, c'est les histoires de Dev Pari. Déjà, la façon qu'il prononce, il voit tout de suite que ce n'est pas un conte arabe. Dev Pari, donc, m'y aimerait bien un jour, et d'Italie, parce que c'est un conte merveilleux de princesse enlevée par un démon qui s'assoit sous la mer et tout. Donc, une longue histoire. Donc, ça, c'est le conte d'origine hindou. Et les histoires, les contes musulmans, comme on l'a entendu, c'est surtout, comme Omar l'a dit tout à l'heure, beaucoup de contes, beaucoup de légendes autour des djinns. Ça, quasiment tous les Arabes de la Réunion l'ont entendu, des histoires de djinns. Après, plusieurs personnes avaient venu voir moi, au moment où on m'a lancé moi dans le conte, me demandaient à moi s'ils m'avaient entendu parler de Soubaï Beni. Alors, ça ne m'avait jamais entendu, mais on a eu la chance d'enregistrer Abdul Kassou, pour ceux qui connaissent qui ça a été, qui est décédé il y a quelques années. Et Abdul Kassou l'avait raconté intégralement une histoire de Soubaï Beni qu'il pourra retranscrire par écrit. Et dans les contes orientaux que Nunana, donc, qui vient de la ville de Surat, Surat, me rappelle, c'était un carrefour donc portuaire, une ville portuaire, un carrefour culturel. Toutes sortes d'étrangers venaient dans cette ville. Il y avait beaucoup de business, beaucoup de commerce. Et c'est là qu'il me rend moins compte que les personnages que nous l'avons entendus, ils venaient par exemple d'Irak pour de l'histoire de Bahlol. Alors Bahlol, c'est marrant parce que nous, Bahlol, quand papa était raconté à nous ça, ma grand-mère était Diano Bahlol, pour moi c'était le prénom de quelqu'un. Et en France, il me raconte ça à des Maghrébins, et ben là tu éclates de rire. Il me dit, mais pourquoi ça t'y rit? Il dit, mais Bahlol, il me dit, l'imbécile, le crétin. Il me dit, ah bon? Mais pour nous, c'est un prénom, c'est tout. Et donc, on a pas mal d'histoires de Bahlol. Et dans les Bahlol, c'est souvent un personnage qui ressemble un petit peu au guignol, qui est un peu comique, avec des histoires invraisemblables, mais la particularité, il y ressemble un peu à une histoire de Nasreddin, qui est un peu mieux connue, sauf que dans les histoires de Bahlol, il y en a ce qu'on appelle les karamats. Karamats, c'est des pouvoirs. C'est des pouvoirs divins que ces gens-là, par exemple, bien dans le cœur des autres, deviner des choses, faire des miracles, marcher sur l'eau. Donc, Bahlol a ces possibilités-là. Deuxième personnage que l'on a entendu, une histoire merveilleuse, c'est l'histoire de Khizr alayhi salam. C'est celui qui était à la quête de la boisson de l'éternité, qu'on dit Abé Hayat. Maman l'a entendu comme ça dans la bouche de ma grand-mère. Et pour l'anecdote, quand Jihad Darwish est venu à La Réunion, c'est un poète, un conteur libanais, qui est venu fort à nous dans les années 2000. Et quand il a demandé à nous si nous étions connus des contes orientaux, il a dit oui, m'a entendu l'histoire de Abé Hayat et de Khizr alayhi salam. Il était stupéfait. Répète un coup ce qu'on vient de dire, mais il était à la quête de l'eau de Abé Hayat. Il dit, mais est-ce qu'on rend compte qu'on est en train de mélanger deux langues, on est en train de dire en farsi Abé, et Hayat, c'est un mot arabe. Et c'est là qu'on a réalisé qu'en fait, les langues que nous l'avons entendues, c'est vraiment des télescopages de plusieurs mots différents. Et donc, Khizr et Pilia dit moi que Khizr alayhi salam, c'est l'équivalent de Saint Georges à la quête du Saint Graal dans la version chrétienne. Et très proche dans l'histoire, dans la structure de Grissi. Nous l'avons entendu parler de Abdelkader Jilani, donc m'y abrège un petit peu, Abdelkader Jilani, mais elle a entendu cette histoire au Maroc, dans la place de Djamaa al-Afna, il ne comprenait pas un mot de ce que le comte disait, mais quand il a dit Abdelkader Jilani, il m'a compris tout de suite que c'était le même personnage. Les histoires, il venait donc, elle a été véhiculée par les sages soufis, et aussi grâce à tous ces voyageurs qui arrivaient par les routes de la soie et des épices. Qui ça la transmettre à moi les contes, et bien, c'est surtout ma grand-mère, qui était elle-même lettrée, qui savait lire et écrire, mais elle répétait à moi souvent, mais il est illettré, il ne comprenait pas, et en fait, elle était illettrée en français, mais maîtrisait parfaitement la langue ourdou, le gujarati. Elle lisait beaucoup de poèmes et de livres de contes. Qu'est-ce qui a arrêté la transmission à La Réunion? Ça a été dit, c'est la modernité, la télévision, ce monde que nous connaissons. Mais il y a un deuxième phénomène, c'est le mouvement Tablik Jamaat, qui est un mouvement religieux réformiste qui a traversé La Réunion en profondeur et qui a demandé à ce qu'on arrête de transmettre des légendes invraisemblables, des mythes, les histoires mentaires, et de se concentrer sur la foi pure, une purification de la foi qui a fait que les anciens ont arrêté de transmettre ces histoires. Moi, j'ai eu la chance d'entendre un certain nom, mais moi, je me rappelle, par exemple, que ma maman était arrêtée, ma grand-mère, et elle dit, raconte pas mes histoires mentaires comme ça, parle-nous des histoires des prophètes, parle-nous du prophète Mohammed, mais pas des histoires mentaires. Donc, mais moi, ma grand-mère réussit à capter un certain nombre de choses. Et donc, il conclut, hein, parce qu'il a fait un signe, c'est qu'à titre personnel, moi, il est un passionné du conte et de la littérature en général. Puis, nous, les bibliothécaires, nous, les militants, hein, donc nous militons pour la culture, pour la préservation de la mémoire, la transmission aussi. Donc, c'est quelque chose qui tient moi beaucoup à cœur. Et il voudrait aussi donc, passer ça aux nouvelles générations à travers, entre autres, l'écrit. Merci.
Merci, Abbas Mullah. Contes arabes, la quête du précieux trésor. Et on accueille maintenant Charlotte Rabessal avec un personnage qui a traversé pratiquement tous les récits depuis qu'on parle ce matin. C'est grand-mère Kal, complexe et fascinante. Le temps que nous retrouvions Charlotte. Voilà.
Je suis un peu mal barrée là, hein, il faut bien le dire, parce que je vais parler essentiellement de grand-mère Kal et des nénènes, et je crois, je ne sais plus ce que j'ai encore à dire après tous les exposés brillants et toutes les évocations qui ont déjà été faites. Et en plus, je vais commencer par quelque chose d'assez ennuyeux, parce que je vais revenir aux faits historiques à l'histoire. Vous voyez, aux faits historiques, je veux dire l'histoire avec un grand H, au début, et ben voilà. Donc, m'y excuse d'avance. Je ne sais pas, quand j'ai vu tous les contes brillants, je ne sais pas moi, des histoires absolument flamboyantes, à côté, ce que je vais dire, ce n'est pas tellement rigolo, quoi. Vous voyez ? Tant pis. Donc, la question grand-mère Kal à La Réunion est intéressante parce qu'elle concerne des domaines très divers, comme l'histoire, la culture traditionnelle, le patrimoine, la mondialisation, le commerce et les loisirs. Ce qui s'annonçait au départ comme le récit d'un simple fait divers dramatique lié à l'esclavage et au marronnage prend au cours des siècles une ampleur et une tournure imprévisibles. Il suffit de voir les nombreuses versions et interprétations du personnage de grand-mère Kal dont nous disposons à ce jour pour nous rendre compte de la complexité de la question. Mais comment, d'une situation réelle, de l'histoire banale mais terrible d'une esclave et de son amoureux est né un récit, devenu un conte lui-même, devenu, légende aussi, je pense que je peux le mettre aussi dans cette catégorie par certains aspects, une légende polymorphe si vivante que grand-mère Kal, aujourd'hui encore, donne la vie à de nombreux éléments de notre actualité. Alors, pour être rapide, pensons par exemple à l'attribution de son nom à trois pitons récemment surgis du volcan de la Fournaise, enfin dans l'environnement, Piton Kala en 2004, Piton Kala et Pélé en 2015, et enfin Tikal en 2022. Donc, c'est quelque chose qui continue à innerver, on va dire, notre actualité. S'y ajoutent des jeux pour enfants qui mettent en scène des caractéristiques associées à son personnage et même une bière arborant une étiquette à l'image d'une sorcière esselée tout à fait classique. Ou un festival musical. Il y en a même plusieurs. Bref, l'image de notre sorcière pays est porteuse, très commerciale, croque-mitaine utile et gentiment monstrueuse. Mais à quel prix ? C'est surtout au moment de la Toussaint qu'une présence marquée de grand-mère Cale dans notre environnement s'est intensifiée au cours des dernières décennies. L'adoption et l'acclimatation d'Halloween dans nos écoles et dans notre société s'accompagnant souvent, volontairement ou non, du personnage de grand-mère Cale. On peut y reconnaître le désir de créoliser. Hein. Alors, je n'entre pas dans les détails de la créolisation, mais je pense qu'il y a là l'idée d'adapter à la culture pays une manifestation anglo-saxonne vue comme inévitable dans la mondialisation actuelle. Comment éviter encore Halloween auprès de nos enfants et de nos jeunes ? Comme on ne peut pas échapper aux grands courants internationaux d'une culture dominante, d'une mode, essayons-nous de nous en protéger pour la mise en avant d'une présentation qui conviendrait mieux à notre culture. Il est difficile, peut-être trop tôt encore aujourd'hui, pour évaluer la réussite ou l'échec de cette prise en compte. Mais il nous faut déjà mieux comprendre la situation, je pense. C'est à cela que je voudrais vous inviter, là, maintenant. Je prends un exemple très simple. Est-il possible d'échapper aux déguisements et aux accessoires qui habillent à peu de frais ces manifestations inspirées d'outre-tombe ? Est-ce qu'on peut y échapper encore ? Que faire de la mise en scène grotesque de la mort, des monstres de l'au-delà, des représentations de revenants, zombies et autres morts vivants ? Leur fonction d'affrontement des angoisses de la mort dans leur pays d'origine est-elle aussi valable chez nous ? Comment on se situe par rapport à cette philosophie-là ? Quel impact dans notre société où les blessures et les traumatismes laissés par une histoire particulièrement violente sont encore prégnants ? Beaucoup ont déjà tiré la sonnette d'alarme sur ce point précis, mais les résultats, je pense, restent vraiment mitigés. Pour ma part, je vais donc essayer, mais dis bien essaye, hein, il ne faut pas attendre des miracles, hein, modestement d'éclaircir la question en remontant aux différentes phases d'évolution du thème grand-mère Cale depuis son origine. Puis nous verrons ensemble ce qu'il faut en penser ou ce qu'on va en faire. D'abord, nous allons partir du fait historique. Si tant est bien celui qu'on s'accorde à le dire. Parce que même à ce niveau-là, c'est très, très confus. Mais bon, on va dire qu'il y a quand même quelques indices. Alors là, évidemment, je peux évoquer, hein, ce n'est peut-être pas un conte, mais c'est peut-être aussi très menteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon, en tout cas, c'est une base. Ça, c'est vérifiable. C'est vraiment la base qui a donné naissance à toute une ramification. Ensuite, donc, le récit que la tradition retient et son évolution dans le temps. Et enfin, la dernière phase, en tout cas celle qui est actuelle la plus vivace aussi, du récit créole à la légende et la tentation actuelle de la fondre aussi dans Halloween. Fait historique, de qui s'agit-il ? D'abord, on va parler des deux personnages qui nous intéressent. Alors, le premier, c'est Zélindor, bien marqué, qui a bien existé. Je devrais même peut-être dire les Zélindor, parce que Zélindor est un nom très courant dans l'esclavage. Voyez. Pour être juste, donc, on peut même dire que des esclaves qui ont porté le nom de Zélindor, il y a un qu'on va sortir, c'est le chef de la révolte du 25 mai 1779 et que nous allons évoquer tout à l'heure. Lui, donc, il a bel et bien existé. On a l'existence historique d'un Zélindor qu'on va évoquer par la suite. Le deuxième personnage, l'esclave Cala, n'a pas son nom et surtout son rôle aussi clairement énoncé dans le même rapport de l'événement. du moins dans la forme qui nous est parvenue. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les esclaves qui s'appelaient Kala ont été très nombreuses dans les recensements à La Réunion. Kala est un nom qui veut dire tout simplement femme, fille, en malgache. Un sobriquet familier qui signifie donc quelque chose d'aussi simple. Et de nombreuses qui arrivaient de Madagascar ont donné ce nom, surtout quand on le leur demandait. Parce que les situations étaient très... Enfin, il y avait des situations multiples, n'est-ce pas, pour la nomination des esclaves. Je donne un exemple. Il y a une file d'esclaves nouvellement achetés qui débarquent dans un domaine. Ils sont là, sales, en haillons, désespérés, humiliés, et on leur demande de dire leur nom. Imaginez le contexte. Une femme dans cette situation ne va pas dire « Je m'appelle Rose du matin » ou bien « Fleur d'amour ». Ce sont des traductions de prénoms malgaches courants à l'époque. Non, elle va tout simplement dire « Kala ». Vous voyez, parce qu'elle ne peut pas, il n'est pas possible dans la situation qu'elle décline des vrais noms. Vous voyez ? Bon, si c'est un homme, il va dire « Coute, garçon ou homme ». Quoi. Et vous en avez des Kala parmi les esclaves. Rien que dans le recensement quartier Saint-Paul 1735, j'ai trouvé 17 Kala parmi les esclaves malgaches. 17. Donc, c'est presque un nom générique d'esclaves, de femmes esclaves malgaches. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ensuite, alors maintenant, pour aller vite, on va s'intéresser à la date. Je me suis référé tout à l'heure à une grande révolte d'esclaves dans l'Est. 25 mai 1779, à la Pentecôte, environ 70 Noirs de Sainte-Suzanne et de Saint-André se rassemblent et montent un complot pour des raisons que les documents officiels cernent mal. Révolte contre les Blancs pour se libérer ou surtout pillage pour se procurer des biens de première nécessité, vol d'animaux domestiques qui engendre le meurtre d'un gardien. En tout cas, le projet échoue. À tort ou à raison, l'enquête retient surtout le complot contre les Blancs et un projet de massacre, ce qui rend le verdict très sévère. 13 esclaves sont arrêtés, dont Zélindor, Julie, Pierrot, Sylvestre, je vais vous passer les noms des gens qui ont été arrêtés. Ils sont donc arrêtés pour vol d'animaux domestiques et pour le meurtre du gardien. Ils sont emprisonnés en attendant d'être traduits devant le tribunal. Durant le procès du 8 juillet 1779, 5 sont condamnés à mort, mais dans des modalités différentes selon leur degré de culpabilité retenu. Alors, 2 ont été condamnés à être rompus vifs. C'est le supplice le plus cruel. Hein. La personne est encore vivante, on l'écartèle et on la laisse... Et on la laisse donc mourir sous le supplice. Ensuite, et donc d'autres suppliciés, 5 en tout cas sont condamnés à mort, dont une femme qui attendait un bébé. Et comme le bébé est précieux, évidemment, on ne va pas la tuer tout de suite. On attend qu'elle accouche, on récupère le futur esclave et après on tue la femme. Elle est exécutée. Normalement, c'était le jugement qui a été rendu à son encontre. Alors, pour être plus rapide, Zélindor a donc été, ce Zélindor-là, bien historique, il a été donc démembré, brûlé, les cendres jetées aux quatre vents, parce qu'il a été considéré comme le chef du complot. Ce qui va se passer, et là où les choses se compliquent, donc Zélindor était en couple avec Kala, une autre esclave. Et là où les choses se compliquent, c'est d'abord sur la position de Kala. Dans une première version, obligée comme tous les esclaves d'assister au spectacle, parce que la mise à mort des 4 condamnés était un spectacle public, ne l'oubliez pas, pour servir d'exemple, et devant donc le supplice insupportable de son aimé, elle n'aurait pas scié et aurait soutenu le regard des bourreaux qui attendaient qu'elle craque et manifeste des regrets, ce qu'elle n'a pas fait. Donc ça, c'était la première version qui a suivi un peu, dans la tradition, la mort de Zélindor. Kala ne meurt pas, ne l'oublions pas. Cette première interprétation, donc, la présente comme une femme fière, forte et digne, qui ne veut surtout pas montrer la moindre faiblesse et le moindre regret devant les bourreaux, face à la punition, entre guillemets, de s'être révoltée contre leur misérable condition d'esclave. Elle aurait donc persisté et signé sa volonté inébranlable de ne pas se plier et sauver son honneur. Mais c'est peut-être dans cette attitude-là que nous allons puiser la deuxième interprétation de son attitude. C'est cette deuxième interprétation qui va s'imposer par la suite. C'est cette version accuse Kala, cette deuxième version, donc, d'indifférence, de trahison et d'avoir fait avorter la révolte et en même temps de causer la mort de Zélindor et des autres meneurs. Je peux avoir 2 minutes encore ?
On est dans le champ de la négociation. Alors, je ne vais pas prendre cette responsabilité. Est-ce qu'elle peut avoir 2 minutes ? Voilà, bon, vous les avez. Ça, c'est de la démocratie directe.
Merci, je n'ai pas de montre. Donc, ce qui se passe, mais je vais faire vite là. Hein. Allez, j'arrête de regarder mon texte, ça me perd. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que 69 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'abolition de l'esclavage. On a oublié tous ces faits-là. Qui va raconter ces histoires-là ? Certainement pas les esclaves. Vous comprenez, c'est la honte. Côté maître non plus, on ne va pas s'en rappeler à l'abolition. Qui sont les... Oui, c'est cette société très partagée et tout aussi gênée par les relations des uns des autres que continue l'histoire de Cal. Alors, c'est comme ça qu'on va voir comment on passe de Cal, la véritable Cal, et les véritables Cal. Je vous dis, il y en a des... À mon avis, il y a une centaine de Cal dans tous les recensements. Comment on va passer à grand-mère Cal ? C'est là, en fait, le point sur lequel, je pense, il faut insister. Alors, comment on y passe ? C'est tout d'abord parce que, à partir du moment où on veut renier ce passé de l'esclavage, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on va chercher une sorte de manière de vivre tout ça de manière un peu plus paisible. Alors, comment on va faire ? On va déformer les histoires. Déjà, les véritables acteurs ne sont plus là. Commence alors la véritable histoire de grand-mère Cal. On passe de Cal à grand-mère Cal. Et quand on passe que grand-mère, quand on dit grand-mère, c'est quand même un terme affectif. Quand on dit de grand-mère, c'est quelqu'un de gentil, de qui vous aide, et ainsi de suite, ainsi de suite. Eh bien non, parce que cette grand-mère Cal-là, elle a vraiment tous les attributs de la sorcière. Alors moi, mon propos, c'est que l'explication que je voudrais lui emmener, je crois que grand-mère Cal, surtout dans la transformation de son histoire en une sorcière monstrueuse, on va mettre avec elle tous les... comment on appelle ça ? Tous les personnages monstrueux des contes aussi, hein, entre Grand Diable, Citarane. Citarane aussi a été liée à grand-mère Cal. Hein, et ainsi de suite, ainsi de suite. À un moment, c'est Madame des Bassins carrément qui tombe dans le volcan et qu'elle jette aussi des enfants et ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes ces monstruosités, à mon avis, reflètent une sorte de mal-vivre avec cette histoire-là qui est... Alors ça, je suis obligée de me revenir à mon test. Je demande encore une petite minute.
C'est alors, la négociation en CFA, ça.
Voilà. Donc, cette... Alors... J'arrive déjà à ma conclusion, là. Bon. Donc, l'appropriation populaire du personnage est en quelque sorte sa créolisation et elle rend adaptable à toutes les composantes culturelles de notre société. C'est peut-être pas là le plus important. Ça a été déjà dit largement. Qui est donc vraiment grand-mère Cal, celle qui nous est restée ? On pense évidemment à la nénène afro-malgache. Nénène, je vous rappelle que nénène veut dire en malgache « petite mère », hein. C'est aussi un terme d'affection. Sauf que la nénène qui soigne et élève les enfants du maître, on peut soigner, mais on peut aussi empoisonner. Hein ? On peut faire du mal, surtout au vu de sa situation subalterne, gênante, par rapport au rôle primordial qui lui est attribué. C'est elle qui s'occupe des enfants. Il y avait même des nénènes qui ont allaité les enfants. Or, c'est une esclave, et elle garde son statut d'esclave, pleinement. Donc, respect incongru pour une esclave, déjà. Est-ce qu'on respecte les nénènes ? Non. Donc, ceci nous interroge, a vraiment interrogé cette image de grand-mère Cal, qui sont donc une des manifestations, à mon avis, là je termine vraiment, une des manifestations de notre, d'une sorte de, comment on va appeler ça, de mauvaise conscience collective. envers ces nénènes, oui, ces nénènes afro-malgaches, quoi, qui ont tout fait pour les mettre, qui ont tout fait, et pourtant, qui n'ont pas du tout reçu leur considération. Et c'est cette mauvaise conscience collective qui nous a relégués, qui nous a relégué Grand Mercal, qu'on a cristallisé autour du personnage de Grand Mercal, et qu'on appelle grand-mère, mais qu'on rejette. C'est cette espèce de malaise fondamental avec le passé et tout ce que ces femmes esclaves, ancêtres, mères, ont donné et qui n'ont jamais été reconnues dans leur apport. Merci.
Charlotte Rabessal, d'une sincérité désarmante. Là, je vais conclure vraiment. C'est-à-dire qu'avant. Merci, Charlotte Rabessal. On accueille maintenant Mohamed Elandrif Bankolo, gardienne et gardien de la parole. Mohamed Elandrif Bankolo, qui est donc délégué du conseil départemental de Mayotte à La Réunion.
10 minutes, 15 minutes.
Non, 10. C'était la consigne. Et après, de toute façon, vous allez être assourdi par le ventre des gens qui sont dans la salle. Donc moi, je vous conseille de tenir 10 minutes.
Honorable assistance, cher public, chers amis, salam, salama, kwezi, bonjour à toutes, bonjour à tous. Karibou, rahaba. Gardiens et gardiennes de la parole est l'intitulé de ma contribution, de ma causerie, que je vais essayer de placer sur la thématique de l'invitation au voyage. Dans cette logique de partage, de dialogue, cette contribution, cette causerie souhaiterait vous embarquer vers la destination du canal de Mozambique. Aussi, encore une fois, Karibou et tous ensemble, vers le canal de Mozambique, vers Mayotte. Allons donc battre carré. Allons donc vers et à la rencontre des populations du canal de Mozambique, à la rencontre de la population mahoraise. Là-bas, je voudrais vous y amener pour faire des rencontres de conteurs et surtout de conteuses, de ces fameuses nénènes, découvrir un patrimoine culturel et immatériel tout aussi riche, écouter des artistes de la littérature orale, écouter des voix, des chants, des rouleurs de tambour, les soirs de nuits étoilées, le soir de nuits obscures. Je voudrais là-bas vous y amener pour les observer, travailler avec eux sur le patrimoine culturel immatériel. Travailler ensemble avec ces artistes de la parole sur les contes recueillis dans les villages malgaches de Mayotte dans les années 1970, pénétrer avec eux, avec elles, le chant de ces contes en dialecte malgache de l'île de Mayotte par le choix de quelques morceaux, de quelques extraits. J'en retiendrai 3. Ainsi, si vous êtes prêts, voyageuses, voyageurs, êtes-vous prêts? Alors, attachez vos ceintures. Nous allons bientôt décoller vers Mayotte. 3 villages, Mtsangamouji, Kanikeli, et ensuite Mbouini, donc nord, et 2 villages du sud. Ainsi, dans un premier extrait, conte numéro 9, intitulé « Viavi Miriri Lalahi ». C'est-à-dire la fille, la femme qui dédaignait les hommes, ou la fille difficile, la vieille conteuse de ce village de Mtsangamouji, mon village natal, nous livre ce beau dialogue dans ce morceau choisi. C'est un dialogue entre un ogre et une fille, sa belle-sœur, très jeune mineure. Turbulence au décollage. Le principal thème évoqué ici est un sujet lourd et sensible qui peut heurter la sensibilité des jeunes auditeurs, de certains adultes aussi. L'ogre touche la bouche de sa belle-sœur et lui demande Intini mwamu, qu'est-ce si, belle sœur, qu'est-ce si, belle sœur?
C'est la bouche pour parler, c'est la bouche pour parler, beau frère.
Ah, ah, c'est la bouche pour parler. L'ogre touche ensuite ses yeux et lui demande. Intini mwamu. Intini mwamu. Qu'est-ce si, belle sœur? Qu'est-ce si, belle sœur?
Ce sont les yeux pour regarder. Ce sont les yeux pour regarder, beau frère.
Ah, ah. Ce sont les yeux pour regarder. Après la bouche, les oreilles, les cheveux. Bref, après s'être livré à ces actes de violence, à ces attouchements de toutes les parties du corps de la jeune fille vulnérable, l'ogre, le beau-frère, conclut cette séquence de violence par cette phrase. Eh bien, belle-sœur, tu sais parler, toi. Au revoir, belle-sœur. Sans commentaire, je passe au texte numéro 2. Je sais que le maître du temps est intraitable. Dans un deuxième extrait, nous nous arrêtons sur ce conte. Ça se passe à Mouini, donc en sud, au sud. De Mtsangamouji, on passe au sud. Ce conte est intitulé Faratra Nari Andrizokini Angala. Les malgachophones prétendront. Faratra, abandonné par ses grandes sœurs dans la forêt. Ici, il s'agit d'une histoire de sœurs jalouses de la plus petite d'entre elles, à savoir Faratra, et qui décide de l'abandonner dans la jungle, qui est, comme chacun sait de nos jours, le monde des agriculteurs, des chasseurs de tang, j'adore, des éleveurs, des amateurs du grand raid pour les sportifs. Mais à l'époque de nos aïeux, de nos ancêtres, c'était le territoire des monstres. Ouh, ouh, je sens ici une odeur qui n'est pas la mienne. Une odeur qui n'est pas la mienne. Qui donc a osé venir ici manger mes oranges, toutes mes oranges? Pour sa peine, si je l'attrapais, je le ferais. Miam, miam. Accrochée sur la branche de l'oranger, Faratra est morte de peur. Morte de peur. Et l'ogre, grâce à son puissant sens de l'odorat, se faufila au milieu de la plantation et s'approcha de sa proie et finit par trouver très vite la petite fille abandonnée et mangeuse d'oranges, accrochée de toutes ses forces à une branche comme un enfant au pied de sa maman. « Miam, miam, descends !» lui dit le monstre. Comme il était grand, comme il avait des grandes oreilles, des cornes et nez pointus, des dents et une queue très longue,
Tes cornes et ton nez me font peur,
répondit-elle d'une voix tremblante. Le monstre rentra ses cornes et son nez, on ne les voyait plus. Miam, descends, lui dit encore le monstre.
Tes dents et ta queue me font peur. Très peur.
Le monstre les rentra, ainsi que ses poils et ses griffes. On ne les voyait plus. Tous les traits du monstre ont disparu. À présent, il a l'apparence d'un planteur plutôt élégant et souriant.
Ma petite, descends.
Lui dit l'élégant planteur avec une voix si douce et convaincante. Voix empestée, toutefois, d'une odeur de rhum planteur. Mais l'enfant, toujours morte de peur, reste scotché sous la branche de l'oranger du planteur amateur de rhum et mangeur d'enfants. Que va-t-il se passer? Le monstre sous ses nouveaux traits de planteur et doux et sympa. Va-t-il faire de la petite Faracha son dîner du soir? Comment va-t-elle s'en sortir, cette petite fille innocente, abandonnée par ses propres grandes sœurs? Où sont les assistantes sociales? C'est pour. Très beau métier, le métier des assistantes sociales. Bravo à vous. Alors, allez dans la version intégrale et originale de ce conte qui sont disponibles à l'Université de La Réunion. Dernier conte, je ne sais pas si je peux le présenter.
Ah, non, là, vraiment, je crois que ça va être
alors,
difficile.
Bon, très bien, pas de souci. Donc, pour complément de connaissances, donc, voilà, ces contes sont disponibles à l'Université de La Réunion. Donc, ce sont les travaux de Guenier, collecte, qui a fait ce travail de collecte dans les années 1970. Donc, de très beaux textes donc, en langue, recueillis en langue malgache, donc transcrits et puis traduits par Guenier. Je voudrais, si vous permettez, dire merci aux deux CCE Réunion Mayotte et à l'Université de La Réunion qui associe toujours la Maison de Mayotte, cette maison ouverte au monde, à leurs actions sur le vivre ensemble en paix. Par référence à la Journée mondiale du vivre ensemble que nous venons de célébrer le 16 mai 2024, en partenariat avec plusieurs acteurs et notamment avec cette belle participation du groupe de dialogue interreligieux de La Réunion, Monsieur Gilbert Aubry, Monsieur Bagnan, qui nous ont fait de très belles interventions. Merci à toutes et à tous pour votre indulgence et espérant que ce voyage rapide de découverte de Mayotte, de ses contes, voilà, de la maison de Mayotte, vous a diverti, vous a permis de mieux connaître la littérature de Mayotte et les maisons de Mayotte. Donc, merci aux organisateurs. De ce colloque et à l'honorable assistance.
Rapprochez-vous du micro pour la fille.
Merci.
Voilà. Merci Mohamed El Amri Famkolo, gardienne et gardien de la parole. Architecte émérite, parce que ce terme est souvent employé, les gens ne le maîtrisent pas. Émérite, ça signifie à la retraite, en tout cas dans le langage universitaire. Donc c'est bien le cas pour toi. Voilà. On accueille Georges Chantune, une littérature orale réunionnaise au goût de Chine, une contribution qu'il va nous construire.
Mesdames, Messieurs, bonjour, mais ça fait 4 heures que j'avais envie de vous dire bonjour. Alors, comme vous, j'ai faim, et je commençais un petit peu, ça c'est mon âge, hein, à m'assoupir un petit peu, donc pour vous réveiller, pour me réveiller, je vais commencer par une petite devinette. Est-ce que vous savez que... Alors, je reprends mon texte. Que lors des nuits de la pleine lune, on peut voir un petit lapin de jade accompagné d'une très jolie princesse. Peut-être même avez-vous déjà vu, tout particulièrement lors de la pleine lune du 15e jour du 8e mois lunaire du calendrier chinois traditionnel. Lorsqu'elle est la plus belle, la plus ronde, la plus grosse et la plus lumineuse de l'année. Ce soir-là, c'est la fête de la lune ou la fête de la mi-automne. On l'appelle aussi, et c'est très parlant, la fête de l'unité familiale. Cette année, elle aura lieu le 17 septembre prochain. Traditionnellement, dans toute la famille, parents, enfants, frères, sœurs, cousins, cousines et amis proches, se retrouvent le soir autour de la table d'offrande, de forme ronde, bien sûr, symbole d'unité et de solidarité, partageant un pique-nique pour prendre le temps d'admirer Dame la Lune. C'était l'occasion de passer un merveilleux moment en famille et de savourer dans la joie, dans la bonne humeur, le rire et la gaieté, les célèbres succulents gâteaux de lune, que vous connaissez certainement beaucoup, qu'on appelle en chinois jus de perle. J'ai vu quelques compatriotes dans le coin qui comprennent le cantonais. de forme ronde, comme la lune, fait de pâtes de haricots mungo ou de pâtes de graines de lotus fourrées d'un jaune d'œuf de canne légèrement salé. Un vrai délice. Et un moment inoubliable que nous, les enfants, attendions tous les ans avec impatience. À cause de ces gâteaux de lune, je l'avoue, c'était et c'est encore parmi les contes que nous racontaient nos parents, celui que mes frères et sœurs, mes amis, jeunes et moins jeunes, nous préférons encore aujourd'hui. Mais que font donc un petit lapin et une princesse sur la lune ? La légende raconte qu'il y a, le conte raconte qu'il y a bien longtemps, vivait dans la campagne chinoise un couple qui s'aimait d'un amour tendre. Lui, un bouvier et un archer célèbre, s'appelait Oui. Elle, Tisrand, s'appelait Shang He. Un jour, il y eut 10 soleils en même temps qui réchauffaient la terre, brûler les récoltes et tuer les animaux. C'était la désolation totale. Ouyi réussit l'exploit de faire tomber 9 soleils avec son arc. Ainsi, l'harmonie revenait sur Terre. C'est pour cette raison, vous savez, hein, vous le savez, hein, qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul soleil. Ah oui. Pour le remercier, les dieux lui offrirent l'élixir d'immortalité. Ouyi demanda à son épouse, Shang-He, de bien vouloir cacher le flacon d'élixir dans la maison. Un jour, un brigand rôdait dans les environs. Pour éviter que ce dernier ne s'empare de l'élixir, Shang-He but tout le flacon. Aussitôt, elle s'envola vers la lune. Quant au lapin de jade, on raconte que 3 immortels sont descendus pour visiter la terre. Le voyage leur donna faim. Ils demandèrent aux renards, aux loups et aux lapins de bien vouloir leur donner à manger, ce que firent le loup et le renard. S'adressant aux 3 immortels, le lapin de jade dit « Je ne suis pas chasseur. Aussi, je vais me jeter sur le feu pour vous nourrir. Sitôt dit, sitôt fait. » Profondément ému par ce geste de sacrifice, les 3 visiteurs l'envoyèrent sur la lune pour devenir le lapin immortel de jade, symbole de bonté, de dévouement et de piété filiale. Parmi quelques autres événements traditionnels qui étaient célébrés dans chaque année dans ma famille et dans beaucoup de familles d'origine chinoise à La Réunion, il y en a 4 autres à commencer. Par la plus populaire, je vais essayer d'aller plus vite. Le jour de l'an chinois, qu'on appelle Kuonin, la fête du printemps, le premier jour du premier mois lunaire du calendrier chinois traditionnel. Je vais manger un petit peu mes mots, hein, maintenant. Cette fête synonyme du succulent gâteau de riz glutineux, que vous connaissez aussi, et surtout, pour nous, des pochettes rouges que nous offraient nos parents et nos aînés et qui contenaient un billet de banque de 5 francs CFA en général, symbole de solidarité et de piété filiale, et pour porter bonheur aux enfants. Elle ne devait pas être ouverte le jour même pour ne pas laisser s'envoler le début de la fortune. C'est aussi, bien sûr, l'apprentissage de la patience. Pour moi, j'ai le souvenir impérissable que je pouvais, avec l'argent des pochettes rouges, m'acheter des gâteaux à la boutique chinoise et un pâté, un feuilleté. C'était un vrai bonheur. Alors, le conte attaché à cette fête raconte l'histoire d'un monstre féroce du nom de Nian qui, la veille du jour de l'an, descendait des montagnes pour dévorer toutes les récoltes, piller les maisons et faisait peur aux enfants. Sauf que Nian avait une sainte horreur de la couleur rouge et du bruit. D'où, la veille du jour de l'an, l'abondance des lanternes rouges, des panneaux des sentences parallèles de couleur rouge collés aux portes des maisons chinoises et des crépitements des pétards encore aujourd'hui. Alors, j'allais vous citer quelques fêtes traditionnelles qui sont fêtées encore aujourd'hui dans les machins, mais je passe pour vous parler au moins de la fête du double 5 ou la fête des bateaux dragons où il y a une course annuelle hein, dans l'Ars du port, notamment. Hein. C'est la fête aussi du poète Chuyan. Chuyan était fonctionnaire du royaume Shu, connu pour son intégrité, sa bienveillance, sa fidélité à l'Empire et aimé de tous les habitants du village, contrairement à son supérieur hiérarchique qui était connu pour sa cupidité. Calomnié et destitué par ce dernier, il se suicida en se jetant sur la rivière Millau le cinquième jour du cinquième mois lunaire. Les habitants essayaient de le sauver en jetant du riz glutiné dans l'eau, espérant ainsi que les poissons carnivores ne le mangèrent pas son corps. Depuis, la tradition que nous mangions ce jour-là, les succulents gâteaux glutineux fourrés de viande et enveloppés dans les feuilles de bambou, toujours très appréciés des réunionnais d'origine chinoise et des réunionnais en général. Je vais passer directement à la conclusion. Donc, que peut-on en tirer de ces contes et légendes que nous ont racontés nos parents, nos aînés, à travers ces fêtes traditionnelles? D'abord, un sentiment général de profonde reconnaissance pour nos parents et pour nos aînés, qui nous ont transmis avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, ces contes et légendes. À travers ces contes et légendes, qui datent de la nuit des temps et qui se transmettent de génération en génération, nous prenons conscience de leur importance. Ils nous ont aidés, ils nous aident à développer toutes ces valeurs humaines qui ont construit et construisent nos vies et qui sont communes à toutes les cultures, à tous les pays et à toute l'humanité. En finale, transmettre les contes et les légendes, n'est-ce pas les perpétuer et rendre immortelle l'humanité? Mesdames et messieurs, merci.
Voilà. Merci Georges. Littérature orale réunionnaise au Gouchine. Et alors déjà excusez Annie Grondin qui devait être avec nous mais qui pour des raisons de contrainte familiale n'a pas pu participer à notre manifestation. Et nous allons accueillir notre, je ne sais pas pourquoi il va y avoir un bruit là, notre dernier intervenant, Chani Arzeux. Donc, du griot aux raconteurs d'histoire. Et ensuite je ferai un nouveau appel à la démocratie. Donc nous prendrons une décision ensemble. Chani Arzeux, du griot aux raconteurs d'histoire.
Et bonjour à toutes, comment il est?
Salam abé, mbote, manaon, comment il est? Adieu. Donc, moi, mais les danseurs, mais les pas conteurs. Donc, quand ça m'y fait là, à moi-même, je ne connais pas, comme mon croyance, il dit, les ancêtres l'a choisi. Donc, c'est un exercice, je n'ai pas habitué, de plus que ce n'est pas mon domaine de prédilection. Donc, moi, mais les danseurs, chorégraphes. Et m'a baigné dans le hip-hop, qui est très afro-américain, très universel, Universal Zulu Nation. Mal agrandi dans la culture Rastafari, donc retour aux sources, justice, vérité, conscience, back to the roots. Voilà, donc c'est comme ça que mes vient partage exact aujourd'hui mon africanité rayonnaise, où nous pouvons aller dans l'autre sens, comme vous savez. Donc ma mi-vie va aller à travers le hip-hop, le breakdance, à travers la danse, à travers le moringue, comme elle a découvert à l'âge de 9 ans, on parle d'un parc voisin d'un port. Et ben de plus de dernièrement avec la musique, cet instrument qui a aujourd'hui plus de 100 000 ans d'histoire. Donc, quand on nous parle de l'Afrique, c'est cette conscience mémorielle qui échappe à nous, toutes en fait. On ne parle pas de 300 ans, de 2000 ans ou de 10 000 ans, on nous parle des millénaires et des millénaires de mémoire qui n'est plus forcément, qui est à peine perceptible aujourd'hui, mais qui est toujours là. Donc à travers cet instrument que nous sommes fiers de dire, oui, c'est un instrument rayonné du Maloya qui a failli être oublié. Donc moi, malgré la chance d'ancêtre, la mettre un bob de mon main, comme il dit dans la seule chanson que moi j'ai écrite, merci ancêtre, la mettre un bob de mon main, merci ancêtre, la donne à nous Maloya, la donne à nous Morengue. Et moi, je sorte dans le fond Saint-Paul, Grande Fontaine, Crève-Cœur en montant Bois Rouge. Mon famille, juste pour dire, la gaieté portoise au port. Et mon maman, il chante reggae, Rastafari, Sun is Shining, donc voilà où ça mon prénom il sort. Il s'est lire un petit texte, moi, là, écrit. Donc, à chaque fois, il s'est dit, l'air à l'arrivée, ça s'est répété, l'air à l'arrivée. L'air à l'arrivée. L'arrivée papangé vol volé pour race nous liberté en vérité ré. Ma hâte à mon race. L'arrivée nous tig. Guette à l'idée devant notre ennemi. Zako tig ça. À nous fourmis, si nous masse droite. N'a point des ordres. L'arrivée a le mal dans la forêt, faut y sortir, faut y descendre pour mettre l'ordre. Zako sens ça. L'arrivée pour nous guerriers rayonner en méchabé, ensemble pour nous désaquelle. Ensemble nous fait un, et nous terre d'offé. Nous gab tef nous. L'arrivée pour nous soubattre pour la vraie dignité, de monité, en liberté, en vérité, ré. L'arrivée, guerrier la lumière, n'a tient beau flambeau comme qu'il faut, avec bon Dieu de l'eau, noun. L'arrivée nous va vendre pis, nous prie le vent, chou. L'arrivée nous a mis pis, nous entraîne jusqu'à la pis, sous la pluie, nous plante le grain pour demain. L'arrivée nous va, me rappelle pis, mon texte moi-même, nous va fleurir en Védi. Nous va fleurir en Védi. Sirius, Vénus, sorti avec la lune, avec nous. L'arrivée à nous fourmis, ne fait pas des ordres pour mettre l'ordre. Nous médite. L'arrivée n'a soubatté, soulangé en misouké, n'a souqué pour justice véritérée. Haché. Donc, ça, c'est pour. Déclamer d'autres textes, même si, comme je disais, ce n'est pas mon domaine de prédilection, il ne fait pas longtemps que m'y écrit. En tout cas, juste pour donner un peu mon bonne référence, un hommage à M. Runoko Rachidi qui est décédé dans les années Covid. Donc, Runoko Rachidi, il a sacrifié son vie, c'est un chercheur. Professeur à l'université de Philadelphie, il est décédé dans les années Covid, là, n'a pas longtemps. Donc, m'y tient à partager avec Zot cette référence que nous revient à cette notion de mémorialité, cette notion de temps qui nous dépasse. Donc, c'est pour ça que m'y travaille avec le Bob aussi pour expliquer à Zot ça aujourd'hui. Donc, 100 000 ans de présence africaine en Asie. Il a écrit 100 000 ans de présence africaine en Europe. Et il était en train d'écrire 100 000 ans. Il a écrit 100 000 ans de présence africaine aux Amériques. Et il était en train de finir les 100 000 ans de présence africaine en Europe. Et malheureusement, il est décédé. Donc voilà, c'est juste pour donner un peu cette dimension qui nous échappe, cette dimension mémorielle qui nous échappe. Et Mina, un outil venant d'un tonton. Un tonton martiniquais, si je ne me trompe pas. Donc, le wushikam, c'est quoi le chikam? C'est quoi le wushikam? Donc, quand nous causons créole, nous oublions de valoriser, quand nous parlons d'identité rayonnaise, de langue causée, nous le fions à notre créolité, nous le fions à notre langue causée, tout ça là. Nous ne nous valorisons pas assez. D'ailleurs, elle a trop été dévalorisée jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique en général. Donc, ne valorise pas assez ces langues africaines. Donc le comorien, le malgache, le zoulou, le kosa, le mdébélé, le shona, le l'éthiopien, tout ça là, la retrouve dans les plantations. Avant 48, il fallait bien bonater apprendre à communiquer. Donc le premier créole est très africain. Donc voilà, c'était ça le petit message. Déjà, après 48, avant les apports des autres civilisations, on avait très peu. Avant 48, on avait très peu de gens d'origine indienne, très peu de gens d'origine asiatique, on va dire chinois. Donc, voilà, ça c'est. M'explique à Zot, c'est quoi? L'origine égyptienne de la langue dite créole. Donc, quand nous parlons égyptien, nous ne parlons pas d'arabe, nous ne parlons pas de sémite, nous parlons bien de kaf, de kam, de kama, de kemet, donc le nom de l'Égypte antique, à l'époque des pharaons, avant les invasions perses, etc., etc. Donc, il ramène loin, plus de 2000 ans en arrière. Donc, c'est Dibombari Mbok, un Africain d'origine Bassa, du Cameroun, qui est
linguiste à l'Université de Montréal, un docteur en linguistique, qui a mis en place une méthode, il appelle la méthode Kuma. Donc l'origine égyptienne, nous pourrons remplacer par éthiopienne ou africaine, de la langue dite créole, des langues dites créoles. Dedans, il y a même bon mot rayonné. Hein. Là-dedans, il cause la raque, il cause tout ça là. Hein. Il cause tout ça là. Donc, à Lille, il fait le rapprochement des langues dites créoles, donc les plus faciles avec le guadeloupéen, parce que ou qu'a fait ci, ou qu'a fait ça, le K, le Ba, nous connaissons ces sortes en Égypte. Donc, il prend les langues créoles, haïtiennes, réunionnaises, martiniquaises, guadeloupéennes et autres, et il essaie de trouver des mots que nous dit, des expressions, dans les langues africaines. Donc, il prend plusieurs langues africaines, il voit qu'on a des évolutions phonétiques entre les langues africaines et le créole. Et la méthode dite Kuma de Dibon Barienboc, Ali, il parle des hiéroglyphes pour aller vers les langues africaines. Donc, le Jean-Luc Divial, Jolo, Ali, il a fait ce travail-là, c'est-à-dire retrouve cette africanité dans notre langue causée, que nous-mêmes, nous dit bon mot, nous connaît même plus que les d'origine africaine, en fait. Donc, c'était ça, juste pour Danazat, un peu le base de mon bonne référence de travail en tant qu'artiste, chorégraphe, danseur, chorégraphe. Et ben, depuis peu, m'y écrit et m'y déclame des textes. Donc, m'avait préparé un petit introduction sur comment le conte à l'africaine, il a influencé, nous raconte des histoires à La Réunion. Donc, Philharmonie Paris, par Christian et Amour Makouaya. Donc, mais il ne pourra pas détailler tout ça, mais invite Azot à aller trouver ce document. Il est assez facile, hein, où tu tapes Conte Congo sur Google et où vite fait, on tombe là-dessus. Nous peut aller à la prochaine page. Il ne voit pas bien pour moi, mais. Mais ça pas retourner là-dessus parce que, comment dire, c'est juste que, voilà, on a le compte étiologique des origines. Donc là, c'est cosmogonique. Chaque peuple a une façon de raconter le monde, la genèse du monde, la genèse de la création, le divin, le sacré, les origines du monde, de l'univers. Voilà, ça, c'est étiologique. Contes des animaux, en Afrique, il est normal, hein, le totémisme, etc., l'animisme, les contes merveilleux, les contes de sagesse, les contes facétieux, donc qui doit amuser le public, et puis les randonnées, donc voilà, tout ce qui est énumératif. Donc là, comme n'a pas beaucoup de temps, m'y invite Azad vraiment à trouver ce petit document, il est intéressant, il est universel aussi, hein, il n'est pas que africain. Donc voilà. M'y vient sur un terme qui est l'Afrique. L'Afrique, étymologiquement parlant, c'est un mot berbère. C'est un mot berbère. Ifrika, déesse berbère, donc les Européens l'ont repris ça pour dire Africa. Mais Al-Kéboulan signifie littéralement le jardin d'Éden, donc la région des Grands Lacs, Congo. C'est pour ça que il est en référence au Congo. Et aujourd'hui, dans cet état d'esprit de renaissance africaine que Zot peut voir, si Zot informe Zot sur l'actualité géopolitique mondiale et le rôle de l'Afrique, comment il y a eu la renaissance indienne, il y a eu la renaissance chinoise, mais là, en ce moment, il y a la renaissance africaine, donc aussi des diasporas, des peuples afro-descendants comme nous. Nous réapproprions-nous l'histoire, nous réapproprions-nous les cultures afro, on nous réapprofondit, et aujourd'hui, nous parle de Kam. Donc, il revient à Kal, Kam, en malagasy, il veut dire un affaire. Mais le professeur Bilolo, retiens bien ce nom, le professeur Bilolo, linguiste international renommé, Ali, il parle du mot kafir, kaf, kafir, qui veut dire mécréant, celui qui ne se convertit pas, celui l'ignorant, parce qu'il ne convertit pas lui. Ben, normal, il ne convertit pas lui, parce qu'il a déjà expérimenté le sacré, le divin, pendant des millénaires. Il connaît déjà les sobondiers, il ne veut pas convertir. Donc, il est fier si aujourd'hui, nous les kaf kafir, ben, nous les fiers. Donc, kavila, kaf qui est kavila, kaf kavila, kef kefir, Kam, Kam, Kem, tout ça là, c'est des mêmes origines. Donc, Kavila, il veut dire celui qui sait. C'est pour ça qu'il ne se convertit pas. Celui qui sait. Donc, en fait, c'est des érudits, c'était des sages, c'était des gens initiés, comme il dit, dans les sociocultures. Donc, il va peut-être pas pouvoir finir. Et si il doit aller un peu plus loin pour terminer, il va partager à Zot comment m'amuse à moi dans ce méthode Kuma, là, entre les hiéroglyphes, depuis la langue créole, en passant par les langues africaines, jusqu'aux hiéroglyphes, il va partager à Zot comment m'amuse à moi en tant qu'artiste, comment m'y joue avec les mots. Et il est un peu hermétique, parfois il peut avoir ni queue ni tête, mais c'est juste un jeu de linguistique en fait. Donc, si nous pouvons mettre le cabaret. Donc, cabaret, il ressemble à nous bien. Cabaret. Alors, déjà, mi disait Ankuja Seneb. Ankuja Seneb, en égyptien ancien, en shikam, ça veut dire vie, force, santé, prospérité à tous. Voilà. Donc, c'est une salutation, comme nous dit Otep, comme nous dit Salam Aleikoum, les pareils. Mbote en Congo, les pareils. Donc, il y a un spectacle qui s'appelle Kal ou Bassé. Donc, il cause Kalbass, il cause le Bob. Donc, le Bob, le sombre, il était très dévalorisé, hein, associé aux sorciers. Tout ce qui est noir, il a été diabolisé, nous connaît. Voilà. Et le Bob, il revient. Donc, dans le Kalbass, à cause dit déjà, zéro Kalbass, fumé grand bois déjà. Voilà. Des fois, au lieu de dire Kalbass, il dit coco. Quand nous regardons les langues africaines, coco, ça veut dire écorce. Ça veut dire Kalbass aussi, dans plusieurs langues africaines. Donc souvent, il fait référence à la civilisation mandingue. Donc, en lisant, on va voir comment on nous amuse. Hein. N'a ni queue ni tête, c'est juste des mots qui s'enchaînent, un jeu de linguistique. Kal ou ba se. Kal ou ba se. Ka, kaba, kalou. Kali, ka, kem. Ba, bara. Alaba, louba. Barré. Ankuja Seneb, Medou Nechea. Medou Nechea, ça veut dire parole sacrée, parole divine, parole de Dieu, c'est-à-dire ce que les Grecs ont appelé les hiéroglyphes. Heka, kabare, heka. Wiawe, ayo, aya. Wobe, wope, woba, ala, meshabe. Wushkam, kal, kalou, kalaou, kala, kama, bak, baka, baal, balo, ban. Donc, c'est juste des énumérations de mots comme ça pour faire le lien entre notre créole et les langues africaines. Et si nous étudions les médiounetières, les hiéroglyphes, nous voit bien que n'a de l'homonymie, de synonymes, il y a beaucoup de sens. C'est des idéogrammes qui sont retransmis et le mot, selon le contexte, peut dire plusieurs choses, selon le niveau initiatique aussi. Donc, nous va continuer le prochain texte et puis le fini. Désolé. Hein. Pareil, c'est des choses qui veulent plus, ni queue ni tête, il veut plus ou moins rien dire, mais nous jouer. Nous, l'artiste, nous jouer, nous les créatifs, nous jouer, nous cherchent, nous jouer, nous cherchent des sens. Nous les un lundi ultra co. Ah, 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 ah. Nous les un lundi ultra co avec l'univers. Ziskas ordi, nous veillons en l'air, partout sur la terre, comme pour Odé où ça nous sorte. Nous toutes, c'est l'or. Pareil, quand nous sommes sous la terre, nos ancêtres, c'est l'or. N'a apprendre son et la terre pour nous mettre à nous en l'air. Pour être en accord avec demain, aujourd'hui et hier. N'oublie pas, nous toutes, c'est l'or. Nous les haines, nous les dés, nous a fait haine. Il a fait haine, il a fait haine. Parce que haine, c'est haine. L'humanité, c'est haine. Woum, mouom, wam, ouam, ouim, ouima. Muntu, muntu, muntutu, muntut, wube, wube, oule, noule, sat noule, nun, non, nomo, nama, naaman, nam, man, mana, munu, mun, moan. Donc, vous avez vu le titre, nous moins, nous, à moins, moi, nous, voilà, moana. Moué, mouébé, moin, mouéna, moine, moana, moinana. Tout, tu vois pas ton qui? Tout, tu vois pas ton qui? Toi, tu vois pas son quai. Toi, tu vois pas son queue. Toi, tu vois pas son cas. Nous va, nous bas. Nous bas, nous les. Nous moula, moula, nous là. La 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 la. A fait, a refé, n'a refé, la refé. N'a lé, n'a allé, na na na. Lé. Isou fa, fa zoui. Isou, isou la, zoulou, hankou jaseneb, haoutep. Donc voilà, merci pour cette écoute.
Alors, merci, Chani Arzeux.